Nous avons constitué une masse de manœuvres où se mêlent nos soldats et les soldats britanniques et qui, par sa mobilité, peut barrer partout la route à l'invasion.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série 1939-1940, la drôle de guerre fut-elle vraiment si drôle? Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la France s'est enlisée pendant 8 mois dans une stratégie attentiste. Le 10 mai 40, l'offensive allemande va brutalement sortir la France de sa torpeur.
L'Allemagne a attaqué la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle continue ainsi la série de ses crimes contre le droit et l'indépendance des petits peuples. Selon une méthode qui leur est habituelle, les forces allemandes ont cherché à obtenir un effet de surprise foudroyant en procédant à des bombardements aériens. Bien que Hitler ait affirmé que ses avions ne visaient que des points stratégiques, les bombes allemandes tombent sur des écoles et font d'innocentes victimes. Les appareils français et ceux de la Royal Air Force n'ont pas manqué de répondre sévèrement à la provocation de l'aviation ennemie.
Le 10 mai 1940, la drôle de guerre prend fin brutalement quand l'armée allemande, créant la surprise, attaque les Pays-Bas et la Belgique. Immédiatement, les armées franco-britanniques se portent à sa rencontre dans le nord. Mais, autre surprise, l'état-major du Reich choisit de porter son effort décisif sur les Ardennes, un massif montagneux considéré comme un obstacle naturel et qui, de ce fait, est peu gardé. Les Allemands s'engouffrent dans la brèche. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Le 15 mai, Paul Reynaud, le président du Conseil qui a remplacé Édouard Daladier, télégraphie à Winston Churchill. La contre-attaque menée contre les Allemands à Sedan a échoué. La route de Paris est ouverte, la bataille est perdue. Il n'a fallu en effet que 5 jours pour que les troupes allemandes transpercent le front continu que les stratèges français avaient savamment élaboré et que depuis 8 mois de drôle de guerre, ils jugeaient inviolable. Malgré des combats acharnés, l'armée française ne peut rien contre la guerre éclair menée par les blindés allemands. Le 14 juin, Paris, déclarée ville ouverte, tombe sans combat. Le 17, le maréchal Pétain, qui a remplacé Paul Reynaud, appelle les Français à cesser le combat. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé à Rotonde, dans le wagon même où l'avait été en 1918 celui imposé par les Alliés à l'Allemagne. Une autre histoire, longue et tragique, commence.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Fabrice Grenard, avant de conclure sur la drôle de guerre, il faut rappeler, il me semble, que l'offensive allemande du 10 mai 40 a été précédée quand même d'un autre conflit un peu oublié, qui a pourtant provoqué un premier sursaut dans la drôle de guerre, c'est la campagne de Norvège. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit ?
Oui, donc du côté français, il y a d'abord un changement politique important qui intervient fin mars 1940, puisque Édouard Daladier, qui est au pouvoir depuis septembre 39, finit finalement par être fragilisé par cet enlisement provoqué par la drôle de guerre. De plus en plus contesté, il décide de démissionner. Il est remplacé par son ministre des Finances, Paul Reynaud, qui lui incarne davantage le camp de la fermeté. Et Paul Reynaud décide d'engager des combats périphériques en Norvège pour essayer de couper la route du fer des Allemands. Simplement, il est devancé par une initiative allemande, puisque ce sont les Allemands qui débarquent les premiers en Norvège, qui s'emparent de Narvik. Un corps expéditionnaire allié va être constitué pour essayer de reprendre Narvik. On est à la mi-avril 1940 et effectivement, moi, je considère moi que c'est cette date en fait qui marque la fin de la drôle de guerre. Parce que là, les combats commencent véritablement. Il y a un changement d'état d'esprit aussi au niveau de l'opinion. On a le sentiment, si vous voulez, que la vraie guerre a commencé. La bataille va plus ou moins s'enliser. Et en réalité, ensuite, du fait des événements de mai 1940, on va demander au corps expéditionnaire de revenir en France.
L'offensive allemande du 10 mai 1940 met un terme brutal à la drôle de guerre. Pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, les terribles 4 années d'occupation allemande, le régime de Vichy, la longue et difficile libération de la France, comment ne pas voir la drôle de guerre comme une période d'illusion et d'erreur stratégique, voire de lâcheté qui aurait rendu la défaite inévitable ? Illusion d'une France imprenable, d'une armée française la meilleure du monde, les Français, hantés par les horreurs de la guerre 14-18, seraient entrés en guerre à reculons, minés selon les uns par le pacifisme, selon les autres par l'esprit de jouissance né du Front populaire. Lâcheté aussi d'avoir abandonné la Pologne à son sort. Fabrice Grenard, difficile question. Peut-on expliquer la défaite française de juin 1940 par la drôle de guerre ?
C'est en réalité ce que va essayer de faire le régime de Vichy. En effectivement dénonçant l'esprit de jouissance qui s'était imposé en France avant la guerre, en expliquant que le pays n'était pas prêt pour cette guerre et que les Français ne voulaient peut-être pas mourir pour Dantzig, pour reprendre une formule célèbre de Marcel Déa. Tout ça servait aussi bien sûr à cacher la responsabilité des élites militaires de la période.
Pétain
avait été ministre de la Défense nationale en 1934 et a été donc l'un des premiers responsables de la mauvaise préparation du pays. C'était aussi pour Vichy une façon de faire le procès du Front populaire, en expliquant qu'on avait préféré le beurre au canon. Voilà. Les historiens ont beaucoup travaillé ces questions et ce qu'on peut dire de façon certaine aujourd'hui, c'est que d'abord la France n'était pas si mal préparée. Il y a une vraie prise de conscience lors du Front populaire, justement, des dangers représentés par Hitler et ses initiatives. Et il y a une véritable politique de réarmement mise en place dès 1936. Donc, cette idée que le pays n'était pas prêt, ça ne tient pas. L'autre chose, c'est l'idée que voilà, les Français, contrairement à ce qui s'était passé en 14, où là, il y avait eu l'union sacrée, la volonté de se battre, etc., les Français seraient entrés à reculons dans une guerre dont ils ne voulaient pas.
Par pacifisme, peut-être.
Par pacifisme, voilà. Tout cela est faux, en réalité, lorsque on étudie, hein, comme je l'ai fait, les rapports des renseignements généraux, les rapports de préfets, on voit très bien que, au moment de la mobilisation, les Français sont prêts, comme ceux de 14, à faire leur devoir en 1939. Voilà. Ils sont peut-être résignés face à la guerre, mais ils sont prêts à faire leur devoir. Il y a très peu de désertions, par exemple. Et puis surtout, lors des combats de mai-juin 40, ces Français vont se battre avec courage. Mmh. On le sait, lors de très nombreux combats, la poche de Lille, par exemple, qui va résister, et les Allemands vont même rendre les honneurs aux défenseurs de Lille, l'armée française qui bloque aux portes de Dunkerque les troupes allemandes pour permettre aux Britanniques de réembarquer lors de l'opération Dynamo, les combats des cadets de Saumur. Enfin, on sait que cette armée française, elle s'est battue avec courage. Le problème, en réalité, était bien un problème stratégique. L'état-major français conçoit la guerre qui se profile comme une répétition de la guerre de 14-18 et n'a pas suffisamment intégré toutes les évolutions pourtant qui auraient pu être visibles entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1939, notamment le fait que de nouvelles armes s'étaient développées, l'aviation, les chars, et que la guerre avait pris une forme mécanique nouvelle, comme l'expliquera le général de Gaulle dès son discours du 18 juin. Si la France a perdu, non pas la guerre, mais perdu une bataille, c'était parce que la force de mécanique de l'ennemi était supérieure, mais que le jour où le camp allié pourrait lui aussi bénéficier d'une force mécanique supérieure, et bien à ce moment-là, la victoire alliée pourrait devenir possible.
Et la guerre deviendra mondiale, c'est ce qu'il dit. Le résistant historien Marc Bloch, qui, on le sait, doit entrer au Panthéon en juin 2026, il a tenté dans un livre capital, L'étrange défaite, de comprendre les raisons de cette défaite de 40. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la drôle de guerre ?
Marc Bloch est surtout très sévère à l'égard des élites de son temps. Voilà, effectivement, il y a eu une forme de faillite des élites face aux dangers de l'idéologie nazie, face aux évolutions de la guerre moderne qui n'a pas été comprise. Et finalement, il rejoint en ça les conclusions de Gaulle, hein, qui lui aussi accusera les élites de la Troisième République de ne pas avoir été à la hauteur des enjeux du moment.
Merci beaucoup Fabrice Grenard de nous avoir rappelé cette histoire méconnue de la drôle de guerre. Je signale votre livre passionnant sur le sujet, La drôle de guerre, l'entrée en guerre des Français, septembre 1939, mai 1940, édité chez Belin. À lire également donc, on l'a évoqué, L'étrange défaite de Marc Bloch, disponible en folio Gallimard. C'est la fin du fil de l'histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin à la technique. Tilaï, Ravu,